Fabien Lecoeuvre, bonjour. Nous allons parler d'un livre, une chanson dans la tête. Et il n'y a pas qu'une chanson dans la tête de Fabien Lecoeuvre, il y en a des milliers. Finalement, vous avez décidé de raconter votre vie, j'allais dire, après avoir raconté la vie des autres.
C'est un peu ça, Quentin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas décidé de raconter. Je sors régulièrement des livres, des ouvrages consacrés à la chanson française sur des grands, grands auteurs, évidemment, ou avec des grandes histoires, en tout cas des grands, grands artistes. Et c'est mon éditeur. Mon éditeur m'a dit un jour, il faudrait que tu racontes, ta vie. Je dis, bon, enfin, ça va intéresser qui? C'était ma première réaction, en tout cas. Et puis finalement, j'ai mis 2 ans pour l'écrire. C'était très pénible. J'adore écrire sur la vie des autres, parce que ça, je sais le faire, et c'est mon métier. Et puis j'adore quand on me raconte. Et puis il y a des gens passionnants dans les artistes. Mais qu'on soit dans la génération d'Hallyday, ou dans la génération de Christophe Maé, c'est des gens merveilleux, tous ces gens. Ils nous ont enchantés pendant des années et des années. Et donc, en fait, l'idée, elle est là. Alors, j'ai raconté ma vie humblement. Mon livre est sorti le 1er février cette année. Avec le confinement, évidemment, tout s'est arrêté. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre, parce que vous savez, quand c'est comme un disque ou un film, quand il sort avec un problème au milieu, une pandémie, une guerre, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Ça a été très pénible pour moi, parce que j'ai raconté mon parcours, mon enfance, j'ai raconté comment je suis arrivé en ce métier.
Alors oui, parce qu'au départ, rien ne prédestinait le petit Fabien à pousser les portes d'un music hall, du moins pour s'y intéresser, sinon aller voir les artistes.
Oui, parce que mon père, en fait, il détestait tout ce qui était artistique. Toute la culture, en fait. Il avait une très grande... C'était un homme brillant. Mon père était un brillant ingénieur qui dirigeait des forages pétroliers, des raffineries de pétrole, etc. Très, très brillant. En tout cas, un garçon vraiment intelligent, très intelligent. Mais il était hermétique à toute forme de culture. Il aimait que la musique classique. Il détestait les chanteurs. Moi, je me souviens, quand je regardais toutes les émissions quand j'étais petit, alors je regardais les émissions déjà des Carpentiers, déjà de Drucker, déjà de Daniel Gilbert, déjà de Jacques Chancel. Enfin, je regardais toutes ces émissions. Et quand il passait, mon père, dans une époque où il n'y avait pas de télécommande, hein, il passait dans le salon, il éteignait la télé, il me disait « file dans ta chambre, parce que c'est pas que ces conneries que tu vas gagner un jour ta vie ». Donc, c'est
visionnaire.
J'étais mal barré. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un oncle et une tante qui habitaient proche de Paris. Et puis, aux vacances, j'allais chez eux et ils m'emmenaient voir tous les spectacles. Moi, j'avais une tante Simone, qui était une grande tante, c'était la tante de mon père, en fait. Donc, c'était une grande tante pour moi. Elle m'emmenait voir à Bobino, Brassens, Marcel Hamon, les Compagnons de la Chanson. J'allais voir des gens comme Pierre Perret. Elle m'emmenait voir Sylvie Vartan, Claude François, Luis Mariano au Châtelet dans la Caravelle d'Or. Elle m'emmenait voir Annie Cordy dans Hello Dolly. J'allais voir des gens comme Joséphine Baker à Bobino aussi, dans son dernier spectacle qui était produit par Jean-Claude Brialy, d'ailleurs. Donc, en fait, j'ai vu tous ces gens sur scène, elles me traînaient, j'avais entre 9 et 13 ans. Et c'est fantastique pour moi, parce que j'ai grandi avec tous ces gens, finalement. Et c'est ce qui m'a donné le goût du spectacle. Donc, je remercierai jamais assez mon oncle et ma tante, c'est-à-dire Simone et Marcel, qui ont été très importants dans mon existence. Je leur rends quelque part hommage dans ce livre.
Alors, à quel moment il y a eu le déclic pour s'intéresser vraiment à cette chanson? Quand je dis s'intéresser de façon un peu plus professionnelle.
Alors, le déclic, ça s'est fait, je crois, avec Lynn Renault. Lynn Renault a été une personne très importante dans ma vie. D'abord, elle est ch'ti comme moi, elle est du Nord, elle est d'Armentières. Moi, je suis plus entre Arras et Douai, à Vitry-en-Artois. Mais en fait, c'est elle qui m'a donné quelque part, qui m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'a permis déjà de faire un service militaire au ministère de l'Air, à Ballard. Et entre le Bourget et le ministère de l'Air. Donc déjà, j'ai pu faire un service militaire ici, sur Paris. Donc je ne suis pas parti comme tous mes copains de régiment. On partait en Allemagne, en fait, généralement à l'époque, à la fin des années 70. Donc elle m'a pistonné. En fait, je suis rentré en contact avec elle par hasard, puisque j'ai eu mon bac très jeune, à 15 ans et demi. Après, j'ai fait 2 ans de chambre de commerce de Paris. Et je présentais ce qu'on appelle un journal télévisé à l'époque en interne sur toutes les grandes métropoles de France. Alors Rennes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, enfin, etc. Ils étaient câblés à l'époque tous entre eux. Et deux fois par mois, je racontais des nouvelles du CAC 40, enfin tous les trucs, des entreprises. Enfin bref, ce qui était très intéressant, hein, pour les entreprises. Et puis un jour, elle faisait sa énième rentrée au Casino de Paris. Et du coup, elle est venue, elle voulait avoir les comités d'entreprise, etc. Et donc, elle est venue parler aux chambres de commerce. Et c'est comme ça que je l'ai reçue dans l'émission que je faisais, si on peut appeler ça une émission, le samedi matin, rue Armand-Moisan à Paris. Elle est venue, et puis j'ai reçu deux invitations pour aller la voir au Casino de Paris à ce moment-là. parce que ça a bien fonctionné, les comités d'entreprise et les CE, enfin toute forme de CE et d'achat de billets parallèles aux entreprises. Et voilà, et puis après, j'ai reçu une invitation chez elle à la Jonchère, parce qu'on a parlé dans la loge, à l'issue de son spectacle au Casino de Paris. Je lui ai raconté Jean Nohain, que j'avais rencontré quand j'étais enfant, et que c'était la première fois que je voyais un homme avec un visage identifiable, connu, qui racontait une histoire de chanson. Il avait raconté sur scène, pas qu'à moi, il était sur un podium à Vernon d'ailleurs, parce que moi j'ai grandi à Vernon, dans l'Eure. Et il avait raconté sur un podium organisé par le magasin Citroën, ils avaient fait venir Jean Nohain, qui était venu signer son dernier livre. Et sur le podium, il raconte une histoire de chanson, comment est né, il était un petit navire, parce que le compositeur de cette chanson était bègue. Donc c'est comme ça qu'il a fait à chaque fois qu'il chantait sa chanson. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Et donc ce coup, c'est devenu une chanson pour enfants. Parce qu'il était bête. Comme quoi, on peut positiver tout dans la vie, quelle que soit la circonstance, quel que soit le défaut qu'on puisse avoir chacun. Et je trouve ça fantastique. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un raconter une sorte de chanson. C'est Jean Nohain, sur le podium à Vernon, Citroën, passage des Huiliers. Je peux vous donner le truc précis. Et donc c'est à partir de là, que ça, entre Jean Nohain et puis Lynn Renault, que j'ai croisé un peu plus tard quand j'étais étudiant à Paris à ce moment-là, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà, et Lynn Renault m'a ouvert un peu les portes. J'ai rencontré après Karen Cheryl, et je suis rentré en maison de disques. Et puis j'ai abandonné ma carrière qui me destinait finalement à faire de la gestion d'entreprise. J'ai abandonné tout ça, et puis je suis parti en maison de disques. Je suis rentré dans une maison de disques, je m'occupais de chanteurs à l'époque du disco.
Voilà. Chez Carrère, c'est ça?
Alors j'ai fait Carrère, j'ai fait IBAC, j'ai fait AZ, j'ai fait voilà, et puis après j'ai monté ma propre entreprise.
Alors des rencontres, alors on vous a vu évidemment aux côtés de Patrick Sébastien, notamment dans les années Bonheur, ouais. On vous a vu aussi aux côtés de Michel Polnareff, notamment à son retour en France, mais il y a aussi Johnny, il y a Coluche, il y a aussi Claude François, mm-hmm. Enfin les fils de Claude François.
Alors les fils, genre, j'avais croisé le père évidemment parce que j'étais jeune attaché de presse à l'époque, je lui avais posé une question, ça m'a toujours marqué parce que sa réponse je ne l'ai jamais oubliée. Parce que c'est vrai qu'en dehors de la télévision, en dehors de la scène ou dans son bureau, quand on voyait Claude François en tout cas, il avait toujours ses Ray-Ban sur le nez. On ne voyait jamais la couleur de ses yeux, jamais. Et puis même les jours de pluie. Hein. Et puis un jour, je suis allé sortir d'émission de télé. Moi, il y avait Karen Cheryl dans la même émission d'ailleurs. Et puis je sais pas, j'étais avec lui comme ça et je lui dis, je voulais vous poser une question parce que je le vous voyais avec Claude François. Claude François en 77, c'était déjà une immense star. Je dis, mais pourquoi on ne voit jamais la couleur de vos yeux? Je disais à Claude François. Et il me dit une chose formidable. Lui me tutoie, bien sûr. Il me dit, tu dois savoir, Fabien, que le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. Ah, alors là, d'un seul coup, il ne l'a pas dit de manière prétentieuse, parce qu'il avait conscience de son statut, surtout. Il savait qu'il était une véritable idole, une vraie star en France. Avec Johnny, ils étaient deux, en fait. Ils se partageaient le gâteau à l'époque, hein.
Ils se partageaient, mais ils se tiraient la bourre aussi. Hein.
Enfin, les équipes, parce qu'eux, ils s'aimaient bien, finalement. Parce qu'ils avaient eu les mêmes difficultés pour réussir. Ils avaient eu... Enfin, bon, c'était... Ils combattaient sur la même planète, on va dire. Alors après, c'était les équipes qui s'affrontaient. Parce que quand t'aimais Johnny, t'aimais pas Clo-Clo, et réciproquement. Hein. Donc, à l'époque. Hein. Donc, en fait... mais c'était... je me suis toujours souvenu de cette phrase. Un jour, je l'ai raconté à Mylène Farmer... en sortant d'RTL, j'étais venu faire une émission à la bonne La curiosité est un vilain défaut avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. En sortant, elle était là, elle était en train de fumer sur le trottoir. Et Mylène, je lui passe Polnareff au téléphone parce qu'ils devaient travailler ensemble à ce moment-là. Et puis ça s'est pas fait, le projet enfin est tombé à l'eau, bref. Et puis je lui parle comme ça de Clo-Clo et je lui dis, c'est drôle parce que je pense toujours à toi, Mylène. J'ai dit, quand je pense à cette phrase de Claude François, une phrase importante pour moi, qui est quelque part la définition du star system. Et je lui dis cette phrase à Mylène, le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. Et à ce moment-là, elle acquiesce des yeux, elle me dit, c'est tellement juste, elle me dit, c'est tellement ça. Et effectivement, donc c'est la définition du star system. Bon voilà, après, puis je suis rentré dans ce métier, puis après, il suffit qu'on soit bon, comme attaché de presse en maison de disque. Après, j'étais trop cher, donc ils ne pouvaient plus me payer. Donc, je suis rentré à mon compte, j'ai ouvert ma société. Et voilà, maintenant, ma société a 27 ans à l'heure où je vous parle. J'ai 3-4 employés. Et puis voilà, et puis ça se passe bien. Et puis maintenant, je suis plus qu'attaché de presse, je suis plus un directeur de communication aujourd'hui. Et puis je suis passé aussi de l'ombre à la lumière, évidemment, parce qu'aujourd'hui, un peu comme Pascal Nègre, le merveilleux à l'époque PDG d'Universal, ou des gens ou Nathalie André, qui sont passés souvent de l'ombre à la lumière pour des raisons de d'existence et de contrat, tout simplement.
Raconter une chanson, c'est pas forcément si simple, parce que les chansons ont une histoire, les interprètes ont une histoire, les auteurs ont une histoire, et la chanson peut être un mélange de tout cela. Il faut avoir les anecdotes, il faut aller les chercher.
Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Quentin, parce qu'en fait, il faut prendre son imperméable, et son grand chapeau, puis il faut aller ramasser les morceaux du puzzle et essayer de constituer une chanson qui ressemble en tout cas à une histoire d'une chanson. Et alors, ce qui est toujours magique, c'est que il faut essayer de vexer personne. Parce qu'une chanson, c'est toujours l'association de plusieurs personnes, quoi qu'il arrive. Il y a des influences qui arrivent de toutes parts. Quand Nino Ferrer m'avait raconté quand il fait le Sud, par exemple, c'est une histoire de jardinage. Il fait livrer, d'un seul coup, il habite Rueil Malmaison. Il vient d'emménager une ancienne propriété qui a appartenu à Joséphine de Beauharnais. Et puis, il veut mettre des rosiers partout. Il a la folie des rosiers, plutôt. Alors, il va chez un grand pépiniériste. Il achète 600 rosiers qui restent dans des cageots en bois pendant 2 mois. Il ne les plante pas. Il n'a pas le temps de les planter. Et alors, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez lui, ils disent « Mais Nino, il faut que tu les plantes, ces rosiers, à un moment donné, parce qu'ils commençaient à bourgeonner dans les cageots, en fait, les rosiers. Et c'est pas comme ça que tu auras des roses. » Il dit, ne t'inquiète pas, ici, le temps dure longtemps. Ça, c'est au printemps 1973. Il faudra 2 ans, et j'ai reconstitué grâce à Bernard Estardi, qui a été un merveilleux ingénieur du son aussi au CBE, qui était d'abord l'orgue de Nino Ferrer, mais après qui a été un merveilleux ingénieur du son, qui était pour moi un des meilleurs mecs qui prenait les voix des chanteurs. Malheureusement, il nous a aussi quittés, mais il m'avait raconté, ça a mis 2 ans pour faire le Sud, cette chanson qui a été après le tube de l'été 75.
Alors, il y a les chansons, j'allais dire laborieuses, qui mettent des années à écrire, à sortir, qui font des fonds de tiroir. Puis, il y a les chansons qui sont écrites sur un coin de table, comme La Mer de Charles Trenet.
La Mer, c'est sur une tablette dans un train, sur du PQ que Francis Blanche avait été chercher dans les toilettes du train à l'époque, parce que Trenet n'avait rien pour écrire dans le train. Donc, non, celle qui est née le plus vite, je crois que c'est La Montagne de Jean Ferrat. Il a écrit, moi il m'a dit, parce que j'ai pris un jour un TGV avec Jean Ferrat, il m'a dit, j'ai mis 30 minutes, montre en main. Et ce qui est très rare, parce qu'un chanteur peut coucher assez vite le texte. Souchon l'a fait, comme ça, une ou deux fois, ça peut arriver. Mais à un moment donné, après il retouche généralement le texte, parce que ce mot-là, le lendemain, il l'aime plus, enfin on connaît, c'est normal. Bon. Ferrat, il m'a dit, j'ai pas changé une virgule de ce que j'avais écrit la veille sur le petit bureau dans la seule chambre de l'hôtel d'Entraigues. Il me dit, c'est très rare. Même moi, je me suis surpris. Parce que les chansons, il y en a qui peuvent mettre 3 semaines pour les faire, d'autres 1 heure, et il y en a 2 ans.
Fabien Lecoeuvre, donc le titre de ce livre, c'est Une chanson dans la tête. Je ne vais pas vous demander quelle est la chanson que vous avez dans la tête, parce que ça doit se bousculer. Mais il y a autre chose de temps en temps qu'une chanson?
Non, parce que j'ai tellement été courtisé pour faire autre chose comme métier que je fais, et j'ai jamais voulu abandonner la chanson, parce que est-ce que vous imaginez un instant une vie sans chanson? On pourrait pas vivre sans culture, sans art, sans chanson. Moi, j'ai toujours défendu les artistes, et je les défendais toujours, parce qu'on ne peut pas imaginer un instant, mais même quand des périodes qui ont été pénibles en France, comme des périodes d'occupation, des périodes de guerre, des périodes d'invasion, des périodes, on a toujours chanté. Parce que ça appartient, mais nous-mêmes, ça appartient à la race humaine de chanter. Parce que c'est important dans notre tête. D'abord, ça nous procure un bien-être de chanter. Et moi, je canoniserais tous les grands chanteurs qui ont vendu des millions de disques parce qu'ils ont distribué du bonheur. Pour moi, c'est la meilleure des thérapies pour se sortir de n'importe quelle situation. Une chanson, c'est toujours formidable. Alors, il y en a qui sont plus sensibles, aux notes. D'autres, ça va être au texte. Et puis, des fois, il y a la... Il y a la magie de et des fois c'est la magie qui opère, c'est-à-dire que le texte, la chanson, et d'un seul coup vous en vendez des millions. C'est comme ça. Il y a pas de recette. Je pense qu'il y a, franchement, aucun artiste a pu me donner la recette.
Merci Fabien Lecoeuvre. Donc Une chanson dans la tête, c'était aux éditions Le Passeur. Puis je conseille également aussi en passant, si je puis dire, de lire ou de relire ces dictionnaires de la chanson, ces histoires.
Alors, ce qui est ça va vous amuser, parce que je sors, grâce au confinement duquel nous sortons, j'ai réécrit 135 nouvelles histoires de chansons. Parce que j'ai relu, par exemple, les mémoires de Fred Mella. Donc, j'ai trouvé la fameuse histoire des trois cloches que je n'avais pas dans mon dictionnaire. J'ai relu les mémoires de Félix Mayol, qui avait fait Viens Poupoule en 1903. Après, j'ai relu les mémoires des frères Jacques. J'ai relu les mémoires, tout ça, parce que je voulais faire rentrer les frères Jacques avec la fameuse confiture de 1972, enfin, etc. J'ai fait rentrer plein de nouvelles histoires de chansons grâce au confinement, parce que de toute façon, j'avais que ça à faire. Mes bureaux étaient fermés. Et donc je ressors chez Hors Collection mon dictionnaire pour la 8e édition, c'est la 12e année, dans lequel figurent pratiquement tous les très grands noms de la chanson française, mais qu'on soit à la fois Brassens, Ferrat, Gainsbourg, Daniel Gérard, Johnny Hallyday, qu'on soit Sylvie Vartan, Barbara ou même Bézu, par exemple.
La queue leu-leu,
qui a vendu pratiquement 2 millions d'exemplaires. Je ne fais pas de... Je fais très attention, j'ai pas de distinction, j'essaye pas d'intellectualiser la chanson, parce que je travaille pour 67 millions de Français. C'est-à-dire que je ne travaille pas que pour des intellos ou que des gens qui ne seraient pas convenables dans le cadre d'une expression. Je ne fais pas de différence. Pour moi, c'est aussi important. Les 1 million de disques, par exemple, de Francis Cabrel, pour moi, sont aussi importants que les 1 million de disques de To Be Free ou de Laurie, qui sont des chanteurs pour enfants, comme chacun le sait, mais ils sont aussi importants parce qu'ils touchent des gens qui n'achètent pas forcément les disques de Cabrel ou de Léo Ferré. Mais pour moi, c'est un public. Il n'y a pas de mauvais public dans mon analyse. Enfin, il n'y a pas de mauvais chanteurs. Il y a tout simplement des publics différents. C'est là la vraie formule.
Et puis la bonne formule, c'est quand le public rencontre le chanteur et la chanson également.
Évidemment.
Merci Fabien Lecoeuvre. Donc je rappelle le titre, hein, Une chanson dans la tête aux éditions Le Passeur.